Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de l'intensité du postpartum, comment expliquer ce que tu vis à tes proches et la vision ahurissante que la médecine a du postpartum. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout, qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Alors avant de commencer, je veux vous remercier tous à l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Je suis vraiment touchée que ça vous plaise. N'hésitez pas à mettre vos avis sur la chaîne directement, comme ça, ça me permettra d'être visible par plus de mamans, simplement. Il y a une maman qui m'a dit en message privé qu'elle avait eu l'impression de me retrouver comme pendant les lives confinement. Ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force de voir que mon contenu qui vous parlait déjà il y a 3 ans, ben, c'est encore le cas maintenant, donc merci beaucoup. Alors tout au long de cet épisode, je vais te donner des conseils simples et rapides pour mieux vivre ton postpartum. Tu peux les recevoir directement par mail, pour ça abonne-toi au conseil de Maman Relax, il y en aura un par semaine après le podcast. Et le lien pour s'abonner se trouve dans la description de l'épisode, comme ça t'as pas besoin de prendre des notes ou quoi que ce soit pendant le podcast. Tu peux écouter tranquillement, sereinement, et tout arrivera dans ta boîte mail. Promis, c'est vraiment des mails court avec juste l'essentiel parce que je sais que le temps est précieux en postpartum donc je ne vais pas abuser de votre temps. Alors, comme je te l'ai dit précédemment, le thème de cet épisode c'est le postpartum et c'est tellement vaste qu'on va commencer par la base, une définition. Donc la première définition que j'ai trouvée c'est celle du Larousse, on va prendre un truc classique et habituel. Et elle dit, le Larousse définit le postpartum comme une période qui s'étend de l'accouchement au retour de couche, donc à la réapparition des règles. C'est déjà pas très clair parce que, par exemple, une maman qui allaite peut avoir un retour de couche très tardif et une maman qui n'allaite pas peut avoir un retour de couche 6 semaines après l'accouchement. Donc, on n'est déjà pas toutes logées à la même enseigne. Et une autre définition que j'ai trouvée, c'est celle du manuel de connaissances médicales. C'est un organisme qui se présente comme un site médical qui informe le grand public, mais également les médecins. Et eux, ils définissent le postpartum comme la période des 6 semaines suivant la grossesse et l'accouchement. Et c'est la période où la mère retrouve son état initial d'avant la grossesse. Alors pour moi, franchement, quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Je me suis dit, retrouve son état initial d'avant la grossesse. Mais c'est impossible, et encore moins en 6 semaines. Donc elles sont complètement à côté de la réalité des femmes, ces définitions, parce que 6 semaines après la naissance, c'était sûrement pas du tout comme avant la grossesse. Et honnêtement, tu ne le sauras jamais, personne n'est jamais comme la personne qu'il était 9 mois avant, 10 mois en comptant les 6 semaines de postpartum, c'est impossible. Avec ou sans enfant, on évolue chaque jour, on fait des nouvelles rencontres, des nouvelles expériences, et tout ça, ça nous enrichit tout au long de notre vie, et puis simplement notre corps avec le temps se modifie, et donc on ne peut pas espérer un retour en arrière. Et donc dire à une femme qu'elle va retrouver son état initial, pour moi c'est hors de propos et surtout super culpabilisant. Parce que finalement quand t'as un site qui parle de médecine, le Larousse qui est quand même quelque chose de connu et de très reconnu, qui dit que 6 semaines après accoucher, tu dois être hop là, comme t'étais avant. Et je me dis mais comment tu fais pour accepter ce que tu es maintenant, ce que tu vis? Comment tu fais pour te sentir légitime, pour oser parler de ton vécu et demander de l'aide? Comment ton entourage surtout peut entendre ce que tu vis? Par exemple, si ton entourage, t'as accouché, tu rencontres peut-être des difficultés ou peut-être que t'es plus sensible et ils se disent bon, comment l'aider? Google est ton ami. Je tape durée postpartum. Pendant combien de temps est-ce que ça va durer cette folie? Pendant combien de temps est-ce qu'elle va être sur les nerfs? On va aller voir sur Google. Et Google te dit, dans 6 semaines, tout ira bien. Donc je trouve ça assez hallucinant. Et le postpartum, c'est tellement éloigné de cette définition. C'est des rires, c'est des larmes, c'est de l'amour, de la fatigue, des pertes de sang, ton corps qui cicatrise. Parce que même si t'as pas eu déchirure, etc., ton utérus doit cicatriser parce que le placenta s'est décroché, donc ça fait une plaie au fond de ton utérus, c'est pour ça que t'as des pertes de sang. T'as la production de lait qui se met en route, même si tu veux pas allaiter, y a quand même beaucoup de mamans qui, en ne voulant pas allaiter, ont des montées de lait. Avec les hormones, tu peux avoir les cheveux gras, et puis après, ils tombent. Quand tu sors de la maternité, tu étais très heureuse d'avoir tes vêtements de grossesse, mais quand tu sors de la maternité et que tu dois les remettre, c'est pas toujours un moment très agréable. Donc tu dois rester en entre-deux, en transition pendant des semaines ou des mois. Alors soit tu décides de remettre tes vêtements de grossesse, soit tu vas en acheter des nouveaux. Mais voilà, tu dois finalement remettre beaucoup de choses en question et être dans une grosse période de changement et de transition. Et je trouve que les définitions strictes au niveau médical sont vraiment loin, loin, loin de ce que les femmes vivent. Et puis t'as rencontré, on parle beaucoup de toi, mais il y a ton bébé aussi, t'as rencontré la personne que tu vas aimer le plus au monde, qui va te faire aller au bout de toi-même. Parfois tu vas aller au premier regard, parfois après plusieurs semaines ou plusieurs mois. Enfin, voilà, c'est toutes des choses qui font intégralement partie du postpartum. Tu vas apprendre à te connaître, à redécouvrir ton compagnon, ta famille aussi. Et donc pour moi, c'est tellement plus que 6 semaines, quelques pertes de sang, et puis après, hop, ton utérus est en état de procréer. Retour en arrière. T'es comme tu étais, tout va bien. Et c'est aussi pour ça que le postpartum est tellement invisibilisé et qu'on commence enfin à en parler et à voir que c'est beaucoup plus que ce que la médecine décrit finalement. Après l'accouchement, t'as un effondrement de tes hormones. Tu vas ressentir tout plus intensément. Vers le troisième jour, il y a le baby blues. Donc, le baby blues peut durer quelques heures à 15 jours maximum. Si ça se prolonge, on passe dans la dépression du postpartum qui, là, nécessite vraiment un suivi médical. Tu as tes pertes de sang, tu as les tranchées, les déchirures ou les points, tu as la montée de lait, la mise en place de l'allaitement si tu as envie. Ton ventre, il est vide, il est mou. Tu peux avoir des œdèmes suite après la naissance. Et ça, c'est une chose qui choque souvent les mamans, c'est que les œdèmes pendant la grossesse, on le sait, mais les œdèmes après, tu t'y attends pas à te retrouver gonflé comme un ballon avec tes doigts tout gonflés, tes pieds tout gonflés, alors que t'as accouché. Pour toi, tu te dis, j'ai accouché, c'est bon, c'est fini. Et puis finalement, il y a tout ça qui est encore présent. Et parfois, ça peut être très dur à vivre parce que justement, tu penses que c'est la fin et qu'on ne t'a pas forcément toujours donné toutes les informations pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Et donc pour en revenir à la durée du postpartum, je veux juste partager la vision d'une sage-femme. C'est Anna Roy qui, dans une interview pour Émoi et moi, elle dit qu'en réalité, que depuis qu'elle voit des couples et qu'elle est aux côtés des jeunes mamans, c'est que le postpartum dure une bonne année, voire 3 ans pour elle. Et là, je trouve que c'est quand même plus proche de la réalité et du vécu des femmes. C'est beaucoup plus juste et le postpartum est vu d'une façon globale et pas juste d'une façon physique et médicale d'un problème entre guillemets à régler. Là, on tient compte de tous les aspects psychologiques au niveau des relations familiales, amicales, du couple, de la femme avec elle-même, en plus de son corps. Et on oublie souvent que c'est la naissance d'une mère, qu'un couple devient parent et que c'est des processus qui mettent du temps à se mettre en place. Il faut du temps pour découvrir cette nouvelle partie de toi. Souvent, quand tu trouves avoir trouvé un équilibre, ton bébé, il te rappelle qu'il n'y a pas que toi dans tout ce processus, il y a lui aussi qui grandit. Et donc, il va tout remettre en question, surtout vraiment la première année de vie où il grandit énormément et très vite. Et donc tu te disais, je peux le laisser s'endormir seul dans son lit, c'est trop chouette, j'ai un petit moment pour moi, je vais en profiter. Et puis aujourd'hui, justement, le jour où tu es fatiguée, où tu te dis, ah, c'est bientôt l'heure de la sieste, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Et là, non, il pleure et il a besoin de toi pour s'endormir. Et toi, tu peux te sentir fatiguée et désemparée. Tu te demandes pourquoi ça fonctionne plus. Parce que le postpartum, c'est une remise en question vraiment constante. Et t'es obligé d'apprendre à te connaître, de connaître tes limites et tes besoins pour finalement pouvoir répondre aux besoins de ton bébé et te sentir bien avec lui. Et donc, voilà, tu dois. Il y a ton bébé qui est né, mais quelque part, toi aussi, tu nais ou alors tu es en grand, grand, grand changement et en grande période de sensibilité. Parce que ton bébé est peut-être le centre de ton monde les premiers mois ou toute la vie, c'est chacun selon son ressenti. Il est le centre de tout le monde, mais toi, tu es au monde entièrement. Et donc, c'est une charge mentale qui est énorme, c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi important que tu puisses prendre soin de toi pour qu'il se retrouve avec une maman qui est sereine et qui est épanouie. Alors, quand je te dis prendre soin de toi, c'est pas partir au Club Med pendant 3 semaines à bronzer, à te reposer. Hein. C'est simplement au quotidien mettre des petites actions en place qui vont te permettre d'améliorer ton bien-être. Tu peux par exemple prendre 5 minutes pour boire ton café chaud parce qu'on sait très bien que la team café froid en postpartum, on est beaucoup et que ça peut être pesant. En fait, le café froid représente juste le fait que tu n'as plus une minute pour toi, littéralement. Et donc, par exemple, si ton bébé, tu sais qu'il a un bon sommeil le matin ou le soir, tu peux te dire, bah, le matin, je me lève 5 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tôt et je prends ce moment pour moi, je bois mon café chaud, seul. Et franchement, même en reprenant le travail, ça vaut la peine de... Après, quand tu reprends le travail, tu peux te dire, je boirai un petit café chaud et seul au travail. Mais en tout cas, quand tu es à la maison, ça vaut vraiment la peine de prendre ce temps de se lever 10 minutes plus tôt. Sur la qualité de ta nuit, 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais avoir ce temps-là seul pour toi, ça peut vraiment te permettre de démarrer la journée correctement et d'améliorer vraiment ton ressenti de ta journée. Tu peux aussi t'organiser avec ton conjoint pour que tous les soirs, par exemple, il s'occupe de bébé pendant 15 minutes, pour que tu prennes une vraie douche chaude sans avoir bébé avec toi dans la salle de bain. Encore une fois, on connaît toutes les douches rapides où on lui parle tout en se lavant pour que... Il reste détendu. Et puis, bah, quand ils grandissent, c'est les douches en l'occupant, lui donnant des jeux, en retrouvant les jeux à deux pieds, en étant en interaction. Et donc, c'est pas un vrai moment pour soi. C'est simplement question d'hygiène, on se lave, mais c'est pas un moment agréable et qu'on prend pour soi. Si ton bébé va à la crèche, tu peux une fois de temps en temps prendre congé une journée, une demi-journée ou 2 heures si c'est ce dont tu as besoin, pour avoir un moment pour toi. Et ça peut paraître dur de laisser son bébé pour prendre du temps pour soi, mais si ça te permet de te retrouver sereine et de vivre un bon moment et d'aller le récupérer en étant bien avec toi-même, fais-le. Enfin, il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. La maternité, elle te change et c'est aussi l'occasion de te poser des questions, de te demander ce dont tu as besoin, ce qui te fait vibrer, est-ce que la vie que tu es en train de vivre te correspond, est-ce que il y a des changements que tu voudrais faire? La maternité, c'est aussi l'occasion de réapprendre à te connaître, réapprendre pourquoi, parce qu'il y a tellement de chamboulements qu'il y a des parties de toi finalement bah, que tu connais peut-être plus très bien. Tes besoins, ils ont changé, tes objectifs ont évolué. Et donc, te poser, te demander qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien pour me ressourcer? Quand je fais telle activité, comment est-ce que je me sens après? Et comme ça va pouvoir te permettre de mettre des choses en place. Est-ce que c'est avoir 1 heure seule? Est-ce que c'est lire un livre, voir une amie, faire du sport, faire de la méditation? Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont nécessaires à l'équilibre de chacun, qui sont personnelles. Mais une fois que tu sais ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir petit à petit mettre des petites actions en place pour atteindre ces objectifs et te sentir mieux au quotidien. Et souvent, le plus dur, c'est pas de mettre ces actions en place, c'est vraiment de savoir ce dont tu as besoin pour te sentir épanoui. Alors, je voulais aussi te parler de la solitude. Pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de la solitude et pourquoi est-ce que c'est quelque chose de très important pour moi? Parce que bah déjà, personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi seule que pendant cette période de ma vie. Je l'ai expliqué un petit peu dans l'épisode précédent. Le papa a repris le travail tôt, bah, comme la majorité des papas. J'étais à la maison seule avec un bébé qui en plus avait du reflux, des allergies alimentaires, donc on a eu le pack complet. C'était pas un bébé calme et posé que tu pouvais déposer et qui allait faire sa sieste dans son lit. J'étais sollicitée énormément, 24 heures sur 24, et j'avais pas de temps pour moi et je me sentais pas connectée à mes proches ou à mes amis. Et quand je parlais avec d'autres mamans ou que d'autres mamans venaient me parler, la majorité du temps, c'est ce qui ressortait, qu'elle se sentait seule, qu'elle se sentait incomprise. Vraiment, c'est la solitude qui est assez pesante dans cette période de changement. Et pourtant, en 2019, 753 000 bébés sont nés en France. 753 000 femmes ont accouché sur l'année. Je me dis, c'est quand même énorme. Et chaque année, il y a des nouvelles. Bah, il y a plus ou moins le même nombre de mamans qui accouchent. Quand on cumule tout ça, même sur la période, on va dire, des 3 premières années de vie de l'enfant, mais tu as plus d'1 million de femmes qui ont accouché et finalement on continue à se sentir toujours très seule. Alors je me demandais pourquoi avec autant de femmes qui accouchent chaque année, on se sent si seule et pourquoi les mamans n'ont pas l'impression d'être soutenues et entendues. Après la naissance, tu es dans un changement intense. Bon, tu te découvres maman de cet enfant, tes envies et tes centres d'intérêt évoluent comme on a dit précédemment. Et il y a un facteur très sympa qui fait son apparition, c'est que avant d'avoir un enfant, tu pensais savoir ce que c'était d'être fatigué. Tu pensais savoir que oh, je suis sortie trop tard ce soir, à la place d'avoir besoin d'une journée pour m'en remettre, il m'en faut deux. Et je me dis, comment on a pu se plaindre d'être fatigué avant d'avoir un enfant? La fatigue, j'ai l'impression que tu la découvres en devenant maman, que c'est différent d'une journée difficile. C'est vraiment celle liée à la maternité, à la charge mentale, à la fatigue physique qui te fait aller vraiment au bout de toi-même. T'es debout, mais tu sais pas comment. Tu tiens et t'avances et tu sais pas comment. Et c'est aussi pour ça que je te parlais de plein de petites astuces pour prendre soin de toi et te sentir mieux et recharger tes batteries, parce que c'est vraiment ultra important et que la fatigue amplifie tout. Donc forcément, tu vas être plus sensible. Certaines choses vont te toucher plus, t'inquiéter, tes proches vont avoir encore plus de mal à te comprendre, et c'est un cercle vicieux finalement. Quand t'avais des émotions fortes enceinte, c'était facile, hein. On voit que t'es enceinte, que t'as un gros ventre, et donc c'est facile pour les proches de dire « Ah, mais elle est enceinte, ça ira mieux, c'est les hormones, t'es enceinte, c'est les hormones, c'est ce qu'on dit tout le temps. » Mais les hormones en postpartum, elles sont là aussi. Et en plus, t'as la fatigue, et t'as la charge mentale, et t'as la découverte de ton rôle de maman. Des fois, j'ai l'impression qu'une fois que t'as accouché, que ton ventre, il est plat ou pas plat, bref, que t'as plus ton ventre de femme enceinte, bah, t'es comme avant aux yeux de tes proches, de ta famille, de tes amis. Et donc, ils attendent de toi que tu te comportes de façon raisonnable. Sauf que le postpartum, c'est l'opposé de la raison. Le postpartum, c'est un raz-de-marée, c'est une tornade, ça va t'emporter avec toi et ça peut t'amener vers quelque chose de plus beau. Je m'égare, mais cette période, c'est une période de vulnérabilité qui est vraiment intense et c'est l'occasion de te reconnecter à toi et de tes besoins pour la suite. C'est vraiment une période qui est ultra riche intérieurement, même si on ne le voit pas toujours tout de suite. J'ai l'impression que finalement, c'est quand on en sort qu'on voit les changements qui sont opérés, les réajustements qu'on a pu faire et qu'on voit finalement le bénéfice de tout ce qu'on a pu traverser. Mais c'est vrai que quand on est en plein dedans, on se dit juste pourquoi je souffre, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je suis incomprise, pourquoi est-ce qu'on ne m'entend pas quand je dis ce dont j'ai besoin ou quand je dis à une réunion de famille lave-toi la main avant de toucher mon bébé, ou elle est fatiguée, laisse-la dormir, et que la famille, oh ben non, nanani, nanana, parce qu'ils ne la voient pas souvent, sauf que toi tu sais que tu vas devoir assumer par la suite si on a réveillé ton enfant, si on le réveille et qu'il pleure, ils ne vont pas le garder dans les bras, ils vont te le donner. Hein. Et donc, t'as vraiment des gros sentiments d'incompréhension et de lassitude qui peuvent s'installer pour essayer de contrer ça. Il y a des phrases que tu peux essayer de dire à tes proches pour leur expliquer ce que tu vis simplement. Parce que des fois, j'ai l'impression que bah, c'est des incompréhensions, c'est de la méconnaissance. Et donc, simplement leur dire, bah, j'ai accouché, mais je me sens encore sensible. Oui, j'ai accouché, j'ai plus mon bébé dans mon ventre, mais j'ai mes hormones en folie, je me sens sensible, je suis fatiguée. La fatigue liée à la grossesse, le manque de sommeil augmente ma sensibilité. Je peux leur expliquer aussi que tu as des nouveaux centres d'intérêt depuis que tu es maman, parce que peut-être qu'on va te parler de... Je ne sais pas moi, qu'est-ce qui pouvait... De jardinage, peut-être que c'était ta passion et que maintenant le jardinage, pour le moment, bah, t'aimes toujours, mais ce n'est pas ce dont tu as envie de parler maintenant. Peut-être que pour le moment, ta passion, c'est ton bébé et tu as envie de dire qu'il grandit vite, que tu viens d'aller chez le pédiatre et qu'on t'a donné tel ou tel conseil. Tu peux aussi leur expliquer que tu peux t'inquiéter pour ton bébé, pour sa santé, son développement, et donc ça te rend vulnérable, que tu as l'impression de devoir apprendre à te connaître à nouveau pour te sentir bien, et qu'il faut qu'ils soient aussi eux tolérants avec toi, que tu as besoin de temps pour avoir des repères dans cette nouvelle vie, parce que tout a été chamboulé, vous êtes partis à deux, tranquillement, ou toute seule peut-être, pour aller accoucher, et puis vous rentrez à trois ou à deux, et c'est un très très gros changement. Il faut... retrouver des repères dans cette vie. Ta charge mentale, elle a explosé, ce qui augmente ta fatigue, parce que honnêtement, la majorité du temps, là, c'est la charge mentale de la femme qui augmente quand il y a un bébé qui arrive, qui pense à est-ce qu'il a assez de vêtements, est-ce qu'il a les vêtements à la bonne taille, est-ce qu'on a déjà prévu pour la saison suivante ce dont il a besoin. S'il nous fait une poussée de croissance, je peux quand même l'habiller le temps d'aller fournir un petit peu plus sa garde-robe. Comment est-ce qu'on va commencer la diversification? Quand est-ce qu'on va la commencer? Le rendez-vous de chez le pédiatre, il est pris? Enfin voilà, c'est non-stop. Si ça peut te rassurer, je trouve que la première année, c'est très très intense. parce qu'il y a un peu tout à intégrer, que le bébé est plus petit, il est plus fragile, que s'il commence à tousser à 6 mois, ben forcément tu cours chez le pédiatre, qu'il y a les dents, il y a les phases de développement, il y a la peur de l'abandon. J'ai l'impression de te faire la liste des choses horribles, mais ça fait partie du quotidien avec un bébé, la première année surtout. Et donc ça fait que, mais il va commencer à manger, il faut intégrer les allergènes. Je vais vraiment te tuer ton moral là, je suis désolée. Mais voilà, tout ça c'est la réalité des femmes, notre réalité. C'est lourd à porter au quotidien, c'est très fatigant. Et heureusement, une fois que la première année passe, tout ça, ça se calme parce que les dents, tu sais ce que c'est, quand il va commencer à avoir les joues rouges et les fesses rouges et avoir de la fièvre, tu vas plus courir chez le pédiatre, tu vas moins t'inquiéter, tu vas surveiller et tu sauras comment agir pour le soulager parce que tu connaîtras aussi mieux ton enfant. C'est ça aussi qui joue beaucoup, c'est que après la naissance, c'est un être à part entière que tu vas découvrir et que tu vas apprendre à connaître. Alors que quand il a un an et demi, t'as déjà plus de codes, tu sais ce qui lui fait plaisir, tu sais comment il réagit en fonction des situations. Tu peux beaucoup mieux l'accompagner et le comprendre, et donc moins être sur le qui-vive aussi. Et puis souvent à cet âge-là, il commence à parler, et donc la communication se fait plus facilement. Et tu dois être moins focus bébé à essayer de comprendre ses besoins, ses envies. Il va être en... Tu vas avoir un retour de communication plus intense. Donc je me perds dans ce que je disais, mais par rapport aux phrases que tu peux aussi dire à tes proches, c'est que leur dire aussi, je suis en congé maternité, je ne suis pas en vacances, je m'occupe de mon bébé. Un congé, c'est dormir, manger, se laver quand on veut. Et c'est pas du tout ce que tu vis en tant que jeune maman. Je suis désolée, manger quand je veux, non. Dormir quand tu veux, non. Te laver quand tu veux, quand t'as de la chance, ça passe, mais c'est pas très souvent. C'est très éloigné du quotidien d'une jeune maman. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte de ce que c'est réellement d'être à la maison avec un bébé ou avec un enfant en bas âge, ou qui l'ont oublié simplement. J'oublie beaucoup de choses, je pense, en vieillissant. Tu peux aussi leur dire simplement, j'entends que toi tu l'as pas vécu comme ça, mais on ne parle pas de ton vécu, on parle du mien, de mon ressenti, et j'aimerais qu'on puisse entendre ce que je dis. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais moi ça a été, ben oui, mais tant mieux pour toi, je suis très contente que ça a été pour toi, mais c'est pas ce que moi je vis. Et j'aimerais bien qu'on puisse entendre que j'ai besoin d'aide et que c'est difficile pour moi. Et forcément, la majorité du temps, votre bébé, vous l'avez voulu à deux. Je dis la majorité du temps, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, qu'il y a des bébés surprises, qu'il y a des bébés solo, qu'il y a des séparations. Le bébé, vous l'avez voulu à deux. Et finalement, souvent, tu te retrouves seule avec cette responsabilité une fois qu'il est né. Donc ça peut aussi être difficile à vivre et problématique, et c'est quelque chose que les proches ou le conjoint ou les amis ne voient pas toujours. Donc voilà, c'est un ensemble de petites phrases pour différentes situations qui peuvent vraiment t'aider à exprimer ce que tu vis. J'ai envie de te conseiller d'expliquer ce que tu vis, mais n'essaye pas de convaincre une personne qui n'a pas envie d'entendre. Alors là, tu vas perdre ton énergie. Je crois que les jeunes mamans, souvent, ça arrive. Au début, tu as envie d'expliquer tout et de pas te faire changer de point de vue, mais de te faire comprendre, quoi, parce que tu vis quelque chose d'intense et de fort et que t'as envie que tes proches puissent se comprendre. Sauf qu'on a chacun une perception du monde différente, une perception de la vie différente, de l'éducation. Et donc, il y a simplement des fois des idées qui ne se rencontrent pas. Après, je pense que c'est important de s'exprimer et de dire ce que tu vis, mais il ne faut pas chercher à convaincre quelqu'un. Et parfois, simplement à force de discuter ou avec le temps, l'évolution, certaines personnes qui te semblaient un peu réfractaires ou pas très à l'écoute vont évoluer, vont faire évoluer leur avis, vont être peut-être plus dans l'empathie et vont mieux te comprendre et donc tu auras une belle surprise. Quelque chose d'important, c'est pas parce que vous n'avez pas d'affinité ou la même vision de la vie sur la maternité, la parentalité ou ton bébé que vous n'avez pas d'autres points communs et d'autres accroches qui méritent d'être cultivées. Des fois, il faut juste prendre ce qu'il y a à prendre chez une personne et laisser le reste. Et personne n'est parfait, tu rencontreras jamais une personne qui correspond à 100% à tes attentes. Tu auras toujours des points où vous êtes différents. C'est ça qui fait la richesse de l'être humain. Hein. On n'est pas tous les mêmes, on n'est pas des robots, et donc ça, c'est intéressant. Mais quand on est dans une période de fatigue et de vulnérabilité, des fois, c'est difficile de se dire on est proche, on s'entend bien sur plein de sujets, pourquoi est-ce qu'il ne me comprend pas sur ce que je vis, pourquoi est-ce qu'il n'entend pas ce que j'ai à dire. Et on aimerait que tous nos proches comprennent ce qu'on vit, et c'est malheureusement pas le cas, ou heureusement pas le cas, et ça permet de continuer à grandir, à s'ouvrir l'esprit, à faire d'autres rencontres. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de groupes Facebook, que peut-être tu écoutes ce podcast, qu'il y a énormément de comptes Instagram de mamans qui ont simplement besoin d'être en contact avec d'autres mamans qui vivent la même chose qu'elles à un moment M, qui ont besoin de se sentir comprises parce qu'elles ne trouvent pas toujours cette compréhension au sein de leur sexe, au sein de leur cercle proche. Je vais y arriver. Hein. Tu peux te demander aussi pourquoi j'ai pas été mieux préparée à tout ça, pourquoi est-ce qu'on m'a pas expliqué tout ça, pourquoi les professionnels de la santé, ton médecin, ta sage-femme ne t'a pas mieux expliqué ce que tu allais vivre. Alors déjà, pour commencer, je pense que tu as dû recevoir quelques informations, logiquement. Pendant les séances de préparation à la naissance, on t'a sûrement parlé un petit peu de l'après, mais souvent quand on est enceinte, déjà avec les hormones et les changements au niveau cérébral, on ne percute pas tout. Et puis, c'était pas toujours ce qui t'intéresse à ce moment-là. À ce moment-là, ton attention, elle était sur l'accouchement, sur la liste de matériel nécessaire pour ton séjour à la maternité. Et c'est difficile de se projeter quand on est enceinte dans le postpartum. Quand tu es enceinte, le postpartum, c'est l'inconnu total, alors tu as pu préparer des choses qui sont tangibles, les vêtements de ton bébé, sa chambre, tu sais combien il y a de body dans son armoire, tu sais ce que tu vas lui mettre à la sortie de la maternité, s'il fait chaud ou s'il fait froid, tu as pu choisir un siège auto qui correspond à tes critères pour garantir sa sécurité, tu lui as sûrement acheté une poussette pour vos promenades, tout ça c'est vraiment très concret. Et ensuite, tu as imaginé un petit peu celle que tu seras avec ton bébé, tu t'es dit... Oh ben moi ça va, quand mon bébé sera né, je pourrai le laisser de temps en temps à ses grands-parents et je continuerai à aller faire du sport 2 heures par semaine, 2 heures c'est rien du tout. On est d'accord, 2 heures c'est pas beaucoup. Puis finalement quand ton bébé va naître, qui va arriver, peut-être que tu t'es plus peut-être plus sentie très prête à le laisser et que ça aussi ça crée des incompréhensions dans l'entourage parce que peut-être qu'enceinte tu as dit « Oh oui, je te le laisserai de temps en temps pour aller faire mon sport » et puis qu'une fois qu'il est là... Non, je n'ai plus trop envie de te le laisser. Mon bébé a 1 mois, j'ai envie d'en profiter encore un peu. Et ça, c'est impossible à préparer parce que c'est vraiment mais impossible de savoir comment tu vas te sentir et quel lien tu vas créer avec cet enfant. Des fois, pour le deuxième, c'est un petit peu plus facile. Si ton lien avec le premier a été hyper intense, tu sais qu'il y a de grandes chances que ça se passe de la même façon. Tu ne sauras jamais te préparer en fait à 100% pour le postpartum parce que, y a tellement de données inconnues que c'est impossible que tu saches celle que tu seras et quels seront tes besoins à ce moment-là. Et donc c'est ça qui est dur dans l'après, c'est que tu vas vraiment apprendre à te connaître tout en t'occupant de ton bébé. Si c'est le deuxième, tout en trouvant un équilibre entre le premier et le deuxième, entre ta vie, ton travail. Bon, les phrases qui peuvent aussi t'aider par rapport à ce qu'on disait par rapport au gros changement, c'est simplement expliquer que dire oui, j'ai changé et moi aussi je m'attendais pas à ça. Et je comprends que ce soit dur pour vous, mais ça l'est aussi pour moi. Enfin, des fois, l'être humain est comme ça, on pense beaucoup à nous. Que les gens peuvent se dire oui, mais elle pourrait m'appeler plus souvent, oui, mais elle pourrait donner des nouvelles ou elle pourrait me laisser son bébé et tout, parce que la personne a envie d'être en contact avec votre bébé et c'est très gentil. Mais peut-être que c'est pas ce dont toi tu as besoin à ce moment-là et c'est peut-être pas ce dont ton bébé a besoin aussi à ce moment-là. Voilà, ça permet de contextualiser un peu les choses et d'aller ensemble dans la même direction. Parce que c'est l'incompréhension qui crée la distance finalement et la solitude. Alors qu'en postpartum, t'as vraiment besoin de tout sauf de solitude. T'as besoin de pouvoir compter sur tes proches. Et donc il faut éviter ou dissiper les malentendus le plus rapidement possible. Maintenant qu'on a abordé la solitude, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Tu vas te dire, punaise, on rentre seulement dans le vif du sujet. C'est ce que je viens de me dire là en le disant. Mais non, en fait, c'est la continuité, on va dire. Avec les différents facteurs qui entrent en jeu dans le postpartum et donc qui vont amplifier ton sentiment de solitude. Donc pour commencer, pendant la grossesse, ton cerveau il va se modifier. Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a eu des études qui ont été menées par rapport à ça. Et les modifications cérébrales que tu vas vivre vont te permettre de t'attacher à ton bébé, de répondre à ce besoin et donc de permettre la survie de l'espèce. C'est aussi pour ça qu'enceinte, tu as des pertes de mémoire, qu'il y a des femmes enceintes qui n'ont plus le même ressenti au niveau de l'espace. Et donc, ça arrive souvent plus fréquemment d'avoir un accident de voiture enceinte, par exemple, ou de se prendre une bordure. Le fait de permettre la survie de l'espèce, évidemment, c'est très basique, hein. Mais si les premières femmes ne s'étaient pas occupées correctement de leur bébé, l'être humain n'aurait pas été bien loin. Et en 2016, il y a une étude qui a été menée sur les changements qui surviennent au niveau cérébral chez les femmes enceintes. Donc, si elle t'intéresse, ça s'intitule « La grossesse entraîne des changements durables dans la structure du cerveau humain ». Concrètement, grâce à des IRM, les chercheurs ont constaté qu'il y a une perte de matière grise chez les femmes enceintes et elle est corrélée à l'augmentation de l'empathie, une augmentation des cinq sens, une augmentation de la reconnaissance des émotions. Donc, plus les modifications vont être importantes chez la femme, plus l'attachement sera grand et moins il y aura d'hostilité envers le bébé. Et donc, ben, on va dire qu'il y a une perte de matière grise, mais il y a surtout des nouvelles connexions qui vont te permettre de prendre soin de ton bébé. Et donc, en fait, t'as pas le choix, tu subis un peu le changement, quoi. Simplement, pendant que t'es enceinte, ton cerveau se prépare à être focus bébé, c'est tout. Et donc, c'est aussi pour ça que tu peux ne pas te reconnaître ou et que c'est impossible à anticiper. C'est juste ton corps et ton cerveau qui travaillent pour que tu puisses prendre soin de ton bébé et que tu puisses aller au bout de toi-même quelque part. Et que malgré la fatigue et que malgré tout, tu continues. Et il disait aussi dans l'étude, c'est que quand le bébé sourit ou quand il y a des interactions, ça déclenche du bien-être et comme un système de récompense chez la maman. Et donc finalement, à ce moment-là, ce qui t'épanouit, c'est de prendre soin de ton bébé. Et c'est normal. C'est physique, c'est chimique. Et c'est pas quelque part dépendant de toi. Et c'est aussi parfois difficile à vivre. J'ai l'impression que la vie des femmes est ponctuée par les cycles hormonaux, par les hormones, par cette envie irrépressible d'avoir un enfant, alors que 3 ans avant, tu disais oui, des enfants, très peu pour moi. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, tu veux absolument avoir un enfant. Et quelque part, des fois, je me dis, on subit aussi tous ces changements. La raison disparaît et les hormones prennent des fois le dessus et c'est pas forcément toujours facile à vivre. Ça, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que c'est important de. Faut pas tout mettre sur le dos des hormones, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle finalement. Et ensuite, dans les facteurs qui influencent, qui augmentent le sentiment de solitude, il y a simplement le contexte dans lequel tu as donné la vie. Est-ce que tu étais entourée? Est-ce que tu as bien vécu l'accouchement? Est-ce que c'était serein avec ton compagnon à ce moment-là? Par rapport à l'accouchement, la question, c'est pas est-ce qu'il s'est bien déroulé d'un point de vue médical? Non, c'est vraiment est-ce que toi, tu l'as bien vécu? Parce que c'est pas parce que sur le papier, dans ton dossier, on a une belle naissance et tout parfait, bébé va bien, que toi, tu l'as bien vécu et que ça s'est bien passé pour toi. Et bien évidemment, tout ça va rejouer sur ton ressenti, sur le stress que tu peux ressentir au quotidien. Pour certaines femmes, la naissance, c'est vraiment synonyme de traumatisme. Si tu as vécu du stress, si c'était violent pour toi d'un point de vue physique ou psychologique, tu as pu ressentir une forte douleur par exemple, qui t'a mise dans un état de stress intense. C'est encore un petit détour, je crois que je suis la reine des détours. Vraiment, pourquoi est-ce que cette douleur peut être perçue comme si horrible? Parce qu'il y a vraiment des femmes, quand elles te racontent leur accouchement ou la naissance, elles disent vraiment c'était horrible, j'ai cru que j'allais mourir. Ou j'ai été tellement traumatisée par la douleur que j'ai ressentie que plus jamais de deuxième enfant. Qui font encore des fois des cauchemars plusieurs semaines, plusieurs mois après de la naissance de leur enfant. Alors pour la majorité, malheureusement, la douleur qui survient à la naissance est perçue comme ça parce que la naissance est médicalisée. Dans un accouchement physiologique, les hormones de la maman se mettent en place pour diminuer le ressenti de la douleur. Et donc, quand il y a une intervention péridurale, déclenchement, instrumentation, les hormones de la maman ne peuvent pas travailler et ne peuvent pas fonctionner pour la soulager. Et donc, la perception de la douleur et son ressenti est beaucoup plus fort. Une chose importante aussi par rapport à la perception de la douleur, c'est que si tu évites le mot douleur, tu parles de ressenti, si tu fais des détournements d'attention, etc., ça va forcément diminuer ton ressenti. Alors que si on te dit ah t'as mal hein, est-ce que ça fait mal? Bah, tu vas être focus sur ce ressenti, sur la douleur, et donc ça va augmenter ta douleur. Et une chose importante, parce que forcément qui dit douleur dit péridurale, hein. T'inquiète pas, t'auras la péridurale, tout va bien aller, mais c'est pas toujours le cas, parce que parfois elle ne fonctionne pas correctement, parfois elle fonctionne d'un côté, pas de l'autre, ou en haut, mais pas en enfin, en, souvent c'est plutôt en bas, mais pas en haut. Parfois la femme ne ressent plus rien du tout, et c'était pas non plus son souhait. Parfois l'anesthésiste est simplement pas disponible à ce moment-là. Des fois on peut pas la voir à temps, ou on l'a beaucoup plus tard. Si elle est trop forte, tu vas pas sentir ton bébé passer et naître, et ça peut être très dur psychologiquement après la naissance, parce qu'il y a t'as pas pu faire de transition, t'as pas senti ton bébé sortir. Alors toi, il était encore dans ton ventre et puis bam, il est dans tes bras. Je trouve que c'est vraiment à nuancer la péridurale. Si t'as pas pu l'avoir alors que c'était ton souhait, forcément, t'étais pas prête à avancer avec la douleur. Ton corps, il était en état de stress. T'as lutté contre cette douleur. Si tu luttes contre cette douleur, le ressenti est forcément augmenté. Et donc, c'est un cercle vicieux. Ton ressenti est augmenté, ce qui engendre un stress plus important au niveau physique et au niveau aussi psychologique. Et donc, c'est comme ça que des mamans disent « c'était horrible ». Voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à ce genre de ressenti. Et c'est tout à fait légitime, hein. C'est pas du tout un jugement. Je t'explique juste les mécanismes qui se mettent en place pour que tu puisses comprendre aussi ce que tu as pu vivre. J'espère pour toi que non, mais ça arrive. Il y a une autre chose, c'est que la péridurale soulage une douleur physique. Si tu as peur, si tu es stressée, elle va pas te soulager, hein. C'est presque le contre, enfin pas le contraire, mais elle va pas t'aider parce que souvent, lié au manque de personnel, malheureusement dans les milieux hospitaliers, une fois que la péridurale est posée, les sages-femmes vont être un peu moins présentes parce que physiquement, t'es plus tranquille, t'es plus posée. Si t'es en détresse au niveau psychologique, ben, tu vas avoir besoin d'avoir une présence auprès de toi pour t'aider à vivre ce moment. Et malheureusement, c'est pas toujours possible. Si on te dit, genre, ah mais t'as eu un bel accouchement, t'as eu la péridurale et tout, je comprends pas pourquoi tu l'as pas bien vécu. Parce qu'il y a tellement plus de facteurs que ça et que simplement un vécu c'est personnel, un ressenti c'est personnel et on n'a pas le droit de juger un ressenti. T'as ressenti ce que t'as ressenti, ok, maintenant comment on fait pour avancer avec ça? Comment on fait pour le transformer en quelque chose de neutre ou de positif? Comment on fait pour l'accepter et pour qu'il fasse partie de notre histoire sans être douloureux? C'est ça qui est intéressant. Et forcément, je trouve que malheureusement, tout ça, on ne te le dit pas toujours dans les préparations à la naissance. Un autre facteur qui participe au sentiment de solitude, c'est l'éducation. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec l'idée qu'il faut être fort, que ce qui est privé restera à la maison, qu'on ne parle pas de nos difficultés, on ne parle pas de nos faiblesses. On ne parle pas, tout simplement, on dit « Salut, ça va? Oui, et toi ?» Et on n'écoute même pas la réponse de l'autre. forcément, quand on a grandi avec ce genre d'idées et qu'on les a intégrées, forcément, quand on nous explique que c'est comme ça que ça fonctionne quand on est enfant, on intègre ça. Et si, pour sortir de ce genre de schéma, ça demande vraiment un vrai travail sur soi. Quand on a intégré ça quand on est enfant, forcément, il est plus difficile, une fois adulte, de demander de l'aide à ses proches quand on en a besoin. Et ça renforce le sentiment de solitude. Surtout, je trouve qu'une chose qui m'a vraiment choquée, moi, personnellement, quand j'ai eu un enfant, c'est que finalement, en fait, on a toujours grandi avec l'idée que c'est merveilleux d'avoir des enfants. Bon, moi, en étant sage-femme et en étant au contact de couple, j'ai quand même pu évoluer sur cette vision et j'ai bien vu que c'était pas toujours merveilleux, que c'était des difficultés, qu'il y a beaucoup d'amour, mais qu'il n'y a pas que ça. Et je trouve ça dommage que finalement les adultes ne parlent pas de comment ils ont vécu l'arrivée de leur enfant. Je dis les adultes, mais je suis adulte aussi maintenant. Mais qu'on va dire la génération précédente ou les adultes plus âgés autour de nous. Parce que finalement, moi, c'est quand j'ai parlé des difficultés que j'ai pu vivre qu'on m'a dit « Ah oui, moi aussi. » Oui, mais ça aurait été très sympa de nous en parler avant et qu'on a en tête que ça peut c'est très bien, c'est très bien. Chacun fait ce qu'il veut, si tu veux un enfant c'est super, mais que ce sera pas que super, qu'il y aura aussi des difficultés. Et forcément, si tu as toujours entendu c'est merveilleux d'avoir des enfants, c'est la plus belle chose au monde, moi je me suis accomplie quand j'ai eu des enfants, et c'est des phrases sincères, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses derrière dont on ne nous parle pas, ben forcément tu risques de penser que le problème il vient de toi, que c'est toi qui fais mal, que c'est toi qui n'es pas une bonne maman. Peut-être que t'aurais finalement pas dû avoir un enfant, que c'était pas pour toi, alors que pas du tout. On t'a juste pas dit ce que tu pouvais risquer de vivre, et donc comme t'as aucun repère, tu penses que c'est de ta faute, et tu sombres. Parce que pourquoi toutes les autres mamans s'en sortent? Pourquoi tout le monde a une vie super? Pourquoi sur Insta je vois que des photos de mamans super épanouies avec des bébés qui dorment bien? Pourquoi je vois que des photos d'allaitement qui vont bien alors que le mien est difficile à mettre en place? Parce que les gens, ils ont aussi... déjà, je pense que sur Insta ou les réseaux sociaux, je veux dire, tu montres 1% même pas de ta vie. Et je pense que forcément, tu as envie de montrer un joli moment. Il y a peu de gens qui disent quand ça ne va pas. Et donc, si toi, tu t'es abonné ou tu suis plusieurs comptes de jeunes mamans, ta réalité est biaisée parce que tu as plein de jeunes mamans qui montrent que des super moments. Et donc, tu te dis, mais pourquoi moi, c'est pas ça? Pourquoi c'est la galère chez moi? Pourquoi j'ai pas pu prendre ma douche depuis 2 jours? Pourquoi Tu vois, le quotidien et la réalité. Et donc aussi, par rapport aux parents et à l'éducation, On est dans vraiment une grande période de changement. On a pris conscience de l'importance de l'enfance. On sait qu'un enfant, c'est un être à part entière. Un bébé, c'est un être à part entière et qui mérite d'être considéré comme tel. Il y a encore, en 2023, il y a encore 60 ans, on opérait les bébés on les endormait, on les mettait KO, mais on ne leur mettait pas d'anesthésie parce qu'on pensait que les bébés ne ressentaient rien. On est loin de ça maintenant. On a bien progressé. On sait qu'un bébé, c'est un être à part entière qui ressent, qui vit. Et donc la majorité des parents maintenant font différemment de l'éducation qu'ils ont reçue. Et ça peut involontairement mettre des distances au sein de la famille parce que peut-être que les grands-parents du coup maintenant se disent « Ah ben s'il fait pas comme moi, peut-être que finalement il me reproche des choses ou quoi » alors que c'est pas du tout ça, c'est simplement que tu as le droit d'avoir une vision différente. Tu as des données en ta possession qui sont différentes et qui te permettent d'accompagner ton enfant autrement. Tout ça crée des obstacles et empêche la maman finalement de parler et de communiquer avec ses proches et ben, ça peut t'enfermer dans la solitude. Et donc quand tu vois tous les facteurs qui entrent en jeu, je comprends qu'on se sente seul finalement. Et évidemment, ben, tu as toujours la fatigue qui intervient encore. Hein. Quand tu es fatigué, tu es plus stressé, tu es centré sur toi. Tu vas essayer simplement de sortir la tête de l'eau, de survivre à ta journée et toute ton énergie elle est tournée vers toi, vers ton bébé, vers ton cocon on va dire. Et donc, tu n'as pas toujours à ce moment-là la capacité d'être présente pour tes proches ou pour tes amis, parce que tu as peut-être une copine qui a accouché en même temps que toi, et quand vous étiez enceinte, vous vous disiez « Ah, c'est trop chouette, on va avoir un bébé en même temps, on va pouvoir se soutenir. » Et puis finalement, bah, y a tout ça qui fait que tu n'as peut-être pas d'énergie pour quelqu'un d'autre. Et il y a aussi ce que je te disais avant, que finalement tu sais pas comment tu seras une fois que ton bébé sera né, alors peut-être que vous aurez des visions similaires de la maternité et que ça va créer des liens entre vous, et peut-être que vous aurez des visions un petit peu différentes, et dans une période de grosse sensibilité, vous risquez de vous sentir incomprise par l'autre, ou de se dire « Ah mais moi ça je le ferai jamais avec mon enfant par exemple hein. » et que l'autre le perçoive comme un jugement, alors que c'est simplement, toi, avec ton enfant, t'as pas envie de faire ça, bah tu fais autrement, et c'est ok. Mais je pense qu'en postpartum, on se sent très vite bah, agressé, finalement, et que ça participe au sentiment de solitude, parce que pour se protéger, on va peut-être limiter les contacts. Tantine, elle m'a fait un commentaire désagréable la dernière fois, cette fois-ci, j'ai pas forcément envie de l'avoir. Enfin, t'es fatiguée, t'as pas d'énergie, t'as pas envie de te battre non plus, et donc tu vas essayer de te préserver, et donc des fois tu t'enfermes un petit peu malgré toi dans ton quotidien, dans ta maison, mais c'est aussi pour survivre à ce que tu es en train de vivre, hein. C'est pas du tout un jugement, c'est juste un processus qui se met en place. Toutes ces choses participent forcément au sentiment de solitude ressenti par les jeunes parents, par les mamans, par les femmes, et tu peux voir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent comme ça en place, mais sur lesquelles t'as pas de prise, quoi. Parce que la fatigue, elle est là. Tu peux rien y faire. Les changements cérébraux, ils sont là. Tu peux rien y faire. Ce que tu peux faire, c'est simplement comprendre tout ça et déculpabiliser pour te permettre d'avancer et dire « Bon, bah, ça fait longtemps que j'ai pas appelé Tantine parce que elle m'avait un peu saoulée la dernière fois, donc bah, je vais la rappeler, c'est pas grave. Je vais lui dire « On peut se voir, tu peux passer une heure » et petit à petit, recréer des liens et retourner dans un cercle vertueux, on va dire. Tu vas créer des liens et plus tu vas t'apaiser, plus tu pourras peut-être avoir du relais pour t'occuper de ton enfant et donc te permettre d'avoir des moments de qualité seul ou simplement des moments pour répondre à tes besoins. Et donc petit à petit, il y a moyen de retourner la situation et d'aller vers quelque chose de beau. J'ai envie de finir sur une note positive, c'est important. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon cet épisode va durer des heures. Mais c'est vraiment... C'était vraiment des choses importantes que j'avais envie de te transmettre et de te dire. Pour finir cet épisode, j'ai envie de te partager un post, un article ou une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Et cette fois, ce sera une vidéo découverte sur Instagram. C'était sur le profil de lola.naturel sur Instagram. Et elle est intitulée la vidéo Mignonnerie du soir. Je te dis tout ça comme ça, si tu veux le retrouver, tu peux. Et dans sa vidéo, on voit son deuxième bébé qui est tout petit, tout serein, couché sur un grand coussin blanc, et tu vois que c'est une dose, je pense qu'il dort sur la vidéo, c'est une dose d'amour et de douceur, ça te ramène à l'essentiel, à la vie, à l'amour, et ça te ramène à, tu sais pourquoi tu fais tout ça quand tu vois un petit bébé comme ça posé et serein. Et finalement, des fois c'est la plus belle des récompenses de pouvoir voir son bébé apaisé et en le voyant serein, ça peut peut-être te dire que toi aussi t'as envie d'être sereine et de travailler sur toi ou de mettre des choses en place pour aller bien. Et voilà, bah, c'est aussi la beauté des réseaux sociaux, on peut y voir des belles choses. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast à tes proches ou aux femmes que tu connais. J'espère que mes petits conseils te seront utiles. Laisse-moi un commentaire si tu les utilises pour me dire si tu as aimé cet épisode, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'oublie pas que tu peux recevoir tous les conseils que je donne dans l'épisode du jour par email en t'inscrivant grâce au lien qui est dans la description de l'épisode. Tu recevras un email par semaine, hein. Je vais pas te bombarder, hein. Je sais très bien que le temps il est précieux, avec des conseils simples et facilement applicables pour améliorer ton quotidien. C'est là qu'on va se quitter. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax. D'ici là, portez-vous bien.